différent des outils qu'on utilise actuellement, parce qu'actuellement, on a tendance à utiliser les broyeurs qui marchent très bien, mais qui vont blesser nos arbres en les broyant. Alors qu'à d'autres...
C'est-à-dire un truc derrière le tracteur qui va tailler. Et ça, c'est pas bon parce que ça va faire des entrées pour les champignons, parce que les bois vont être cassés n'importe comment et pas naturellement. Alors que comment on fait dans ces cas-là sur des grosses exploitations? Comment on coupe si c'est pas avec un broyeur?
Alors en fait, il y a trois outils qu'on peut mettre sur les tracteurs. Donc il y a ce qu'on appelle l'épareuse, qui est le broyeur.
Ouais.
Cette épareuse, justement...
C'est ce qui nettoie les bords des routes en général.
Exactement. Et en fait, elle peut être très bien utilisée si on ne rentre pas dans la haie. Donc si on coupe des jeunes tiges qui sont vertes. Sauf que du coup, ça veut dire un pas de temps très court pour le faire. Et dans une exploitation...
Et des passages réguliers.
Et des passages réguliers tous les ans. Et en fait, on n'a pas forcément le temps de faire ça. Après, on a complètement l'opposé, qui est le lamier. Le lamier, c'est des grosses scies qu'on met sur les tracteurs. Et là, c'est pour les très grosses branches. Donc le souci, c'est que ça fait du vent. Donc toutes les petites branches vont reculer. Donc on va pas les tailler. Donc on va rentrer et on va couper plus gros que ce qu'on voulait. Et c'est dangereux parce que une grosse branche qui tombe sur le tracteur, ça peut être dangereux pour la personne qui conduit. Et après, vous avez le juste milieu qui s'appelle le sécateur hydraulique, où là, c'est comme un gros taille-haie, mais sur bras de tracteur. Ça a l'avantage de pouvoir couper plusieurs diamètres de haie, des coupes droites et franches. L'autre souci qu'il a, c'est que du coup, les branches tombent au sol et après, on se dit qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, c'est à ce moment-là qu'on peut les broyer et faire du bois de litière, du broyat et le valoriser autrement.
Ok, super. On rappelle, vous ici, votre rayon d'action, c'est vraiment les Hautes-Pyrénées. Vous n'allez même pas, il y a aussi une autre association sur le Gers. Comment ça se passe pour les gens qui habitent ailleurs en France? Il y a une structure arbre et paysage dans chaque département de France?
Alors non, ça c'est un choix de la région Occitanie. En fait, du coup, en région Occitanie, on a un arbre et paysage. On ne s'appelle pas tous comme ça, mais un arbre et paysage dans chaque département. Ça a été vraiment une volonté de la région de dynamiser ce système d'association. On est tous indépendants, mais par contre, on va tous travailler en réseau via un réseau qui s'appelle le réseau Haies Occitanie, qui est du coup l'échelle régionale. Et au-delà, on a réseau Haies France, qui est l'échelle nationale, qui, lui, va essayer justement de déployer des structures un peu comme ça partout dans tous les départements de France ou au moins au niveau régional. Donc, il y a beaucoup de réseaux haies régionales qui ont été créés. Il y en a en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Voilà, il y en a vraiment un peu partout maintenant. Et ils ont tous cette mission-là de sensibiliser à l'arbre et notamment via des actions de plantation de haies champêtres sur la France entière.
Et il peut y avoir aussi des aides dans certains endroits ?
C'est ça. Alors, moi, je suis originaire de Franche-Comté et d'Alsace, donc je les connais un peu mieux là-bas. Mais effectivement, Bretagne, il y a des aides. Grand Est, il y a la région qui finance aussi. Franche-Comté, il y a des aides financières de la région. Donc, il existe vraiment des aides à la replantation. Et actuellement, on a aussi des aides à la gestion durable via le pacte en faveur de la haie. Donc, il y a aussi des...
Là, c'est l'État ?
Ouais, c'est ça. Il y a aussi des aides nationales qui...
Il faut aller à la préfecture pour ça ?
Alors, c'est les arbres et paysages qui le portent. Alors, nous, dans le 65, on ne l'a pas fait parce qu'on n'est pas encore assez développé sur la gestion. Mais il y a beaucoup de structures qui vont le porter et qui vont accompagner justement à cette gestion.
Okay. Alors, on a parlé beaucoup de plantations, mais est-ce que vous apportez, ce sera la question de la fin, est-ce que vous, les gens qui ont déjà des haies, est-ce que vous allez les aider dans leur gestion de haies qui existent? Les gens qui se posent des questions de comment gérer, des gens qui achètent, ça se retrouve beaucoup, hein, des gens qui vont acheter des propriétés, d'anciennes propriétés, avec des terres autour et qui se retrouvent face à ça. Vous allez leur donner des conseils également ?
Alors, actuellement, on ne va pas forcément chez tout le monde au pied de la haie, mais par contre, on organise des journées terrain ou des journées de formation en commun qui sont pour la plupart gratuites. Oui, là, elles sont toutes gratuites, celles qu'on a fait cette année, pour que justement les gens puissent venir voir ce qu'on peut faire directement au pied d'une haie. Et plutôt que disperser ces actions de sensibilisation, on fait quelque chose de commun pour toutes les personnes qui sont intéressées par la gestion.
Ok. Écoute Anaïs, merci beaucoup. On rappelle, il y a un site pour le national, c'est quoi ?
Alors, je pense que c'est réseauhaies.fr au niveau national. Et pour la Maison de la Nature, c'est le site de la Maison de la Nature et vous avez une petite page arbres et paysages où vous avez toutes les infos.
Maison de la Nature et de l'Environnement, MNE des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Anaïs, au plaisir de te revoir dans L'Ours et la Carotte. Au revoir.
Au revoir.
L'ours et la carotte, écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
Entourée par les forêts majestueuses du Canada, Maïna a relevé le défi de découvrir un nouvel horizon. Partie à l'aventure, elle a traversé.
Don't you care about nothing? Have you seen the good times fall? Is it the earthquake that made you nothing?
About nothing. I heard the demons say he lives down and he owns nothing.
Honesty and tenderness.
The wind is floating.
Parce qu'il y fait bon vivre, que la vie s'écoule au rythme des cuicas, de la samba et de la mélodie portugaise, et parce que cette ville a quelque chose de vraiment particulier, voilà pourquoi Khalil nous invite à venir découvrir l'âme de Rio de Janeiro.
Je m'appelle Khalil Belage, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vous amène à Rio de Janeiro. Je suis parti exactement le 16 septembre 2024, j'ai habité plus ou moins 9 mois à Rio. Je me souviens encore du premier jour, je suis sorti de l'aéroport et pleuvait, donc j'étais un peu deg. Il y a un chauffeur Uber qui est venu me récupérer. Je lui ai demandé ce que les Carioca faisaient lorsqu'il pleuvait. Il m'a dit les magasins. Du coup, j'étais un peu deg. Finalement, l'après-midi, il y avait un très beau temps. Je suis allé à Copacabana. J'ai pu voir la statue du Christ Rédempteur depuis la plage. Donc ça, c'était plutôt incroyable. Je me suis baladé un peu partout. J'étais un peu comme un enfant. Voilà, c'était magnifique. Et la statue du Christ Rédempteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut la voir un peu depuis n'importe quel point de Rio. C'est ça aussi qui rend, je pense, cette ville un peu particulière. Les Brésiliens sont très croyants et à Rio, on sent qu'ils sont même fiers d'avoir cette statue. Ils la montrent à chaque touriste, chaque chauffeur Uber, il a une statue de Jésus à l'intérieur de sa voiture. En fait, ils aiment leur ville. Ils aiment leur ville, ils aiment leur pays, ils aiment qui ils sont. Honnêtement, j'avais aucune attente. Je sais que j'ai juste eu l'idée de je sais pas, juste de prendre un billet d'avion, aller à Rio, y habiter pendant un an. J'ai pensé à des lieux, à des villes dans le monde où je pourrais aller, où en général les gens sont heureux de voyager là-bas, soit d'y voyager, soit y habiter. Et du coup, j'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à, je sais pas, Madrid, Barcelone, peut-être Malte. J'ai pensé aux États-Unis. Et lorsque j'ai eu l'idée de Rio de Janeiro, ça a été un choix en fait. Au niveau des paysages, c'était magnifique, mais je savais que ça allait être magnifique. Je dirais peut-être ce qui m'a surpris, c'est vraiment la gentillesse des gens. C'est pas un cliché, les Brésiliens sont vraiment très gentils, ils te mettent très à l'aise. Tu peux rigoler vraiment facilement dans n'importe quelle situation. Tu peux aller à la pharmacie pour acheter, un médicament, tu vas rigoler avec la caissière, alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça. Pour aller au Brésil, juste pour voyager comme ça, vous pouvez y aller si vous avez un passeport français. Vous pouvez rester 3 mois là-bas. Moi, je savais que je voulais rester plus de 3 mois. Du coup, j'ai fait des recherches pour savoir comment je pouvais faire pour rester plus de 3 mois là-bas. Et du coup, j'ai fait un visa vacances-travail qui me permettait de travailler là-bas directement sur place, chose que je n'ai pas fait. Moi, le but, c'était juste de rester un an au Brésil et de pouvoir profiter. Du coup, il faut simplement se rapprocher du consulat brésilien qui est à Marseille. Il faut soit les appeler, soit vous allez sur leur site. Et en gros, tu trouves la liste des documents qu'il faut préparer. Tu fais ta demande et les documents sont vraiment très très simples. Hein. C'est le casier judiciaire, une lettre de motivation pour dire que oui, tu postules au visa vacances-travail, mais que c'est pas vraiment pour travailler. Il faut que tu montres que tu as plus de 2 500 € sur ton compte, plus le billet d'avion aller. Donc en gros, ils te demandent d'avoir plus ou moins 3 000 balles. Et donc moi, ça a été ça le truc le plus dur à avoir. Alors, au quotidien, pour les Brésiliens, c'est plutôt galère. Moi, je vais te dire que c'était pas cher parce que j'arrivais à vivre avec plus ou moins 800 € par mois, ce qui est ridicule quand on compare la vie ici en France. Par contre, pour un Brésilien, je crois que le SMIC au Brésil, il doit être équivalent à 300 €, quelque chose comme ça, ce qui est très maigre. Et leur loyer, ça doit être la moitié de leur salaire. La nourriture, ça reste cher, je trouve, quand même, au Brésil. C'est vraiment le truc qui m'a un peu choqué. T'as aussi beaucoup de mendiants, ça c'est aussi un des trucs qui m'a marqué. T'as énormément de mendiants, t'as énormément de crackheads. Tu vois des SDF qui passent la matinée, enfin qui passent la journée entière à ramasser des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve, et en gros le soir ils prennent le bus pour aller déposer ça à une usine de recyclage pour récolter 3 réals, tu vois. Enfin, pour récolter vraiment, vraiment rien. Beaucoup de gens travaillent au black. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre du style de travail que tu as. Du coup, les gens, je dirais, en favela, s'ils travaillent au black, en fait, ils vont travailler en fonction du besoin. Après, j'ai rencontré aussi des gens qui bossent dans des restaurants, qui bossent 6 jours sur 7, on va dire du classique. Je dirais plutôt que les Brésiliens bossent énormément, ils font beaucoup d'heures. Par contre, je trouve qu'ils sont assez lents dans le travail, au niveau du service, ils sont lents. Si tu vas au supermarché, tu peux voir une caissière qui va vraiment prendre son temps pour scanner les produits alors qu'il y a une file énorme. Je trouve que par rapport à la France, je me suis vraiment fait la remarque de ces gens-là, ils ne pourraient pas venir travailler en France. Après, ce n'est pas vraiment une critique. En fait, ils ne sont pas pressés, ils sont très tranquilles. Je dirais que pour les Brésiliens, il n'y a pas de petits problèmes en fait. Du coup, ce n'est pas vraiment un peuple qui va râler sur la route, ce n'est pas un peuple qui va râler pour rien. Ils ont des vrais problèmes. ils ont des vrais problèmes financiers, ils ont des vrais problèmes. Les petites choses qui emmerdent n'importe quel Français, eux, ça les emmerde pas. En fait, tu vas avoir des hôtels de luxe, tu vas avoir un quartier de riches, mais vraiment de très 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 riches. Et à 5 minutes de ce quartier, tu auras la plus grande favela d'Amérique latine, Rocinha par exemple, tu vois, où il y a à peu près 300 000 habitants. Donc juste à côté de Rocinha, par exemple, tu as le quartier, enfin à côté, il y a Leblon et Ipanema, qui sont quand même deux quartiers riches de Rio, deux quartiers qui sont magnifiques. Et les populations se mélangent, je dirais. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est de vraiment voir un grand hôtel de luxe, et juste derrière sur la colline, tu vois des gens qui sont entassés. Mais tu as l'impression qu'ils s'amusent bien quand même. Il y a beaucoup de musique, donc c'est marrant. Moi, en fait, je suis allé habiter en favela parce que je voulais me sentir en sécurité. Et en fait, pour un étranger comme moi, du coup, qui vient habiter au Brésil, c'est dans les favelas qu'il va se sentir le plus en sécurité. On est ultra protégé là-dedans parce que, entre guillemets, on leur apporte des sous, du coup, on loue des appartements chez eux. Si moi, j'habite là-bas et que, par exemple, je veux m'acheter à manger, je veux aller à un fast-food, je ne vais pas hésiter. Donc, entre guillemets, ils préfèrent que je consomme chez eux plutôt que je consomme à Copa, Botafogo, etc. Donc en fait, on est très bien accueillis. Et puis, personnellement, je voulais, entre guillemets, vivre comme un Brésilien. Donc j'avais pas envie d'habiter dans les quartiers touristiques. Je me suis dit, si je veux vraiment avoir des vraies conversations avec des carioca, bah, je me suis dit qu'il fallait que j'habite là-bas. Carioca, bah, c'est un gars de Rio. Enfin, c'est un gars ou une meuf de Rio, juste qui profite à fond de sa vie, je dirais. Qui va à la plage. En général, le coucher de soleil, c'est à Arpoador. En attendant le coucher de soleil, il y a une après-midi à la plage. Ils jouent énormément au foot, ils jouent énormément au ballon, que ça soit volley, foot, au tennis aussi, ils sont vraiment forts. Ils sont très impressionnants, ils sont très sportifs aussi. À Copacabana et à Ipanema, à peu près à chaque 50 mètres, tu peux voir du matériel pour faire du street workout. Donc en fait, si vous aimez faire du sport, vous allez là-bas, il n'y a aucune excuse. Les Brésiliennes sont vraiment beaux. Ils prennent soin de leur corps, c'est très important pour eux de prendre soin de leur physique. D'ailleurs, il y a un truc qui est un peu bizarre chez eux, c'est que leur fond d'écran sur leur iPhone, c'est eux-mêmes. C'est genre pour vraiment genre te montrer à quel point leur visage, c'est très important, ils prennent vraiment soin de leur corps, c'est un truc qui est très important pour eux, c'est marrant. Moi, personnellement, je ne m'y connais pas en chirurgie esthétique. Enfin, tu vois, je m'y connais pas forcément, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de femmes et en ayant des conversations avec elles, elle va te dire « ouais, je me suis refaite les lèvres ». En général, c'est les lèvres surtout. Après, ça va être le cul, ça va être. Elles vont s'enlever des graisses un peu de partout. Et en fait, ils m'ont expliqué que là-bas, c'est pas cher du tout. C'est très répandu, mais c'est surtout que c'est pas cher. Donc, par exemple, même en favela, où du coup, on va dire que c'est un milieu qui est défavorisé, tu vas avoir beaucoup de meufs avec les seins refaits. Beaucoup. Et du coup, moi, je posais la question, j'étais en mode, mais les gars, je comprends pas, c'est la galère, mais en même temps, les meufs, elles ont les seins refaits. Mais il y a aussi ce truc, je pense, peut-être de mode. Ou vu qu'il y a certaines meufs qui vont le faire, les autres vont suivre. Ça va être un objectif, mais qui sera, j'irai peut-être facile à obtenir. Du coup, ouais, croiser des gens avec des AK-47, avec des armes de guerre qui sont vraiment, qui sont impressionnantes à voir pour de vrai. Du coup, au début, c'est étonnant. J'irai pas jusqu'à dire que je trouvais ça drôle, voire amusant, parce qu'en vrai, ça reste quand même des objets qui sont faits pour assassiner des hommes. Mais tu t'y habitues. Personnellement, j'ai pas été forcément choqué de voir des mecs lourdement armés. C'est pas que j'en avais vu avant, mais c'est juste que j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionnait là-bas. Du coup, je me suis dit, finalement, ça va. Je me suis jamais senti menacé par ces hommes. Je me suis même retrouvé à jouer au foot avec eux. Le dimanche matin, du coup, on allait au stade de la favela. Et donc déjà, à côté des tribunes, il y a des mecs qui sont armés au cas où il y a une attaque ou au cas où il y a je sais pas quoi. Puis tu te retrouves à jouer au foot avec eux, à rigoler avec eux, à partager un repas, un coca, une bière aussi, bien évidemment. Donc en fait, tu peux discuter avec eux. Pour eux, c'est normal d'avoir des armes. Pour eux, c'est normal de protéger leur favela. En fait, c'est comme s'il y avait une société à l'intérieur de Rio. Chaque favela fonctionne en autonomie. Et donc, eux, ce qu'ils vont t'expliquer, c'est qu'ils vont se protéger avec ces armes-là. Après, j'ai rencontré des Français là-bas qui vont te dire, enfin, qui m'ont dit que clairement, eux, ça leur faisait peur, ce qui se comprend absolument, tu vois. J'ai eu peur à ma deuxième semaine, Du coup, moi, je m'étais pris un Airbnb pendant 3-4 jours pour faire un peu les trucs de touriste. À la fin de cette petite semaine, je suis allé faire un volontariat dans une auberge de jeunesse qui se trouvait dans une favela. Et le chauffeur Uber qui m'a amené là-bas, en fait, il est allé un peu plus loin que la rue où il devait tourner, donc pour arriver à l'entrée de la favela. Et au Brésil, ce qui se passe, c'est qu'il y a des voitures de police qui sont à chaque entrée de favela. Juste histoire, genre, de dire, on est là et faites vos trucs, mais nous, on va pas laisser rentrer aussi n'importe qui. On va pas laisser rentrer des gens qui sont suspects. Sauf que mon chauffeur Uber, du coup, lui, il a dépassé la rue, je dirais d'à peu près quoi, 20 mètres. Il a fait une marche arrière, et le fait qu'il fasse cette marche arrière, les flics, ils ont trouvé ça archi suspect. Donc, ils ont commencé à lui demander de couper le moteur. Il a baissé la vitre, le flic a ponté son flingue sur le chauffeur. Moi au début j'étais en mode bon peut-être que c'est normal, peut-être qu'il est habitué. Et sauf que là en voyant le chauffeur lever les mains, après il a commencé à me parler, je le voyais qu'il était vraiment très 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 stressé, donc je me suis dit bon ok c'est pas si normal que ça. J'ai baissé ma vitre et là le flic du coup il commence à pointer son flingue sur moi et là j'étais en mode oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il s'est pas passé grand-chose. Juste mon chauffeur, il s'est pris une énorme soufflante par le flic. Il lui a dit ne refais plus jamais de marche arrière comme ça, dégage. Et j'ai eu peur, mais c'était surtout bizarre. Je m'y attendais pas. Et je m'attendais pas à ce qu'un flic pointe son flingue sur moi, quoi. Les de Rio, enfin, en général, ils vont mal parler de la police là-bas. Il y a vraiment pas du tout des bons rapports entre la police de Rio et les Carioca. Il y a déjà une descente. Moi, je me suis déjà fait réveiller une fois en pleine nuit par des flics qui rentraient dans la favela. Donc, tu entends un échange de coups de feu entre les habitants et les policiers. Il y a déjà un hélicoptère qui est passé au-dessus de chez moi. Ça, c'était assez bizarre aussi. Les Brésiliens adorent les chiens. Donc, même s'il y a des chiens errants, je pense que dans peut-être plus d'une famille sur deux, il y a un chien, même des chats aussi. Là-bas, il y a beaucoup de chiens saucisses, les teckels. Je dirais les pitbulls aussi, ça y en a énormément. C'est des énormes chiens qui pèsent 30-40 kilos. Ils sont magnifiques et très gentils d'ailleurs. Les Brésiliens sont très familles, ils sont très solidaires, ils sont très cool, ils sont très faire la fête. Beaucoup de musique, beaucoup boire aussi. Ça, j'ai vraiment trouvé que les Brésiliens étaient des gros poivrons. En vrai, les caipis, c'est plus les gringos qui vont en boire, enfin les étrangers comme moi. En vrai, je trouve que les Brésiliens, c'est des buveurs de bière, mais des gros buveurs de bière. Même au resto, quand tu commandes une bière, on te sert soit une pinte, soit un 700 ml. Il n'y a pas le demi. Bon, en tout cas, j'en ai pas vu. Mais en général, c'est tu demandes une bière et on te sert genre la grosse bouteille. Là où j'habitais, du vendredi au lundi, chaque jour, je voyais des mecs à 9h du mat, ils avaient déjà enquillé je sais pas combien de bouteilles de bière sur la table. Donc il était 9h du mat, je partais à la plage. Du vendredi au lundi, c'était la fête. Et c'était bière, musique. Même devant les pharmacies, il y a des grosses enceintes avec de la musique. Devant les restos, il y a de la musique. Il y a de la musique de partout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que si tu sors dans la rue, surtout à Rio, faut pas être étonné que des gens viennent te parler, ne serait-ce que pour te faire un compliment, pour te demander quelque chose. Pour te demander le chemin. En fait, les gens sont pas du tout fermés à l'idée de parler aux inconnus. Ils ont pas peur des inconnus et des choses qu'ils ne connaissent pas. Au Brésil, si par exemple tu vas à la plage, attends-toi à ce qu'il y ait des vendeurs ambulants, attends-toi à ce qu'il y ait de la musique de partout. L'espace privé en dehors de chez soi, c'est pas que ça existe pas vraiment, mais attends-toi à ce qu'il soit perturbé. Il se passe plein de choses en fait. Il y a beaucoup d'informations à la minute. Juste si tu vas marcher sur 30 mètres, il va se passer énormément de choses. Il y a un mec en vélo qui va faire n'importe quoi. T'as trois scooters qui vont passer. T'as un groupe de jeunes qui vont mettre de la musique à fond, danser. T'as des vendeurs ambulants qui vont crier. T'as des très belles femmes qui vont passer. Donc en fait, au niveau des yeux, il se passe énormément de choses. Et des oreilles aussi du coup. Ils dansent super bien les Brésiliens. Ils savent faire la fête. Ouais, j'ai fait le carnaval de Rio, ça c'est impressionnant. Il y a énormément de monde. Et ce qui est cool, je trouve, c'est que les gens sont pas forcément bien habillés. Enfin, pour qu'un Brésilien soit stylé, ça va pas se passer au niveau de ses vêtements, ça va plutôt se passer au niveau de son attitude, de sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de danser, etc. Qui, je trouve, les rend beaucoup plus cool. Tu vois, ils vont aller en soirée le vendredi soir, ils vont pas sortir leur plus belle robe. Ça va être vraiment le classique short maillot de foot Havaianas. Et pourtant, ils vont rencontrer plein de gens, ils vont s'amuser, ils vont se faire remarquer. La nourriture brésilienne, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus déçu là-bas. Les Brésiliens, en fait, ils aiment énormément de choses, je dirais, mais ils n'arrivent pas à choisir. Du coup, ils mettent tout. Et même quand tu vas au restaurant, tu vas demander, je sais pas, par exemple, tu vas demander une escalope à la milanaise. En accompagnement, ils vont te mettre du manioc, des haricots, du riz, des pâtes, de la purée, des carottes râpées, des feuilles de salade et une tomate cerise. Tu vois, donc en fait, ils vont mettre un peu de ce qu'ils aiment, un peu de tout. Mais sauf que culinairement parlant, franchement, y a rien qui m'a impressionné là-bas. Enfin, moi, ce qui m'étonnait, c'est que du coup, ils me demandaient « Alors, est-ce que t'aimes la nourriture brésilienne ?» Et je leur disais, moi, les gars, je suis français, et en plus, je suis tunisien. Donc en fait, on joue même pas dans la même compétition. C'est déjà en France, on mange très très bien. Chez moi, on mange arabe. Donc je leur ai dit « Non, vous, votre bouffe, je l'aime pas. » Et du coup, ils étaient choqués parce que eux, ils adorent leur bouffe, ils en sont très fiers. Mais vraiment, des fois, je prenais des photos de leur assiette, mais c'était... Ah, eux, ils adorent leur bouffe, par contre. Eux, ils vont te dire « Oh, la nourriture brésilienne, elle est géniale, c'est trop bon. » La France, c'est un pays... Tu peux faire 9 heures de voiture ou 10 heures, voire même plus. Mais en vrai, au Brésil, tu vas faire facile 24 heures de bus et tu n'auras même pas fait, un quart du pays, quoi. Donc en fait, tu vas faire des très 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 longs trajets. Moi, ce qui m'a le plus étonné là-bas, c'était les paysages. À Rio de Janeiro, du coup, tu vas avoir la plage. À 100 mètres de la plage, tu vas avoir une colline. À côté, tu vas avoir un lac. Et encore une fois, le fait de pouvoir voir une statue de Jésus depuis à peu près n'importe quel point de la ville, ça reste assez impressionnant. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas. Quand tu vas au pied de la statue, du coup, moi, j'y étais allé un dimanche parce que je me suis dit que c'était comme un lieu de culte pour les chrétiens. Et j'ai eu de la chance, quand j'y suis allé, il y avait un mariage. Donc, en fait, tu peux voir vraiment les chrétiens croyants, du coup, quand ils vont voir cette statue, ils sont vraiment émus. Ils sont très contents, très émus. T'en as qui pleurent, t'en as qui se recueillent. Et même si t'es pas croyant comme moi, franchement, juste c'est beau à voir. Le portugais, je dirais que c'est une langue qui se rapproche plus du français que de l'espagnol. Enfin, l'espagnol et le portugais sont quand même très proches. Mais même si j'ai appris le portugais, il y a énormément de fois où je me retrouvais à chercher un mot et juste je prenais le mot français, je rajoutais ar ou r et ça passait, tu vois. C'est une belle langue. Les Brésiliens, ils parlent un peu en chantonnant, ils mettent beaucoup de rythme quand ils parlent. Je trouve ça très agréable à écouter, ils ont des belles musiques aussi. Et je dirais même que parler le portugais, moi, ça me mettait de bonne humeur. Moi, mon mot préféré en portugais, c'est você. Ça veut dire tu ou toi. Et je trouve qu'en fait, c'est beau comme mot juste pour dire toi ou tu sais, pour dire tu. Je trouve que você, c'est vachement joli. J'ai fait énormément de rencontres par contre. En fait, à Rio, ce qui est aussi impressionnant, c'est que tu peux rencontrer, je dirais, le monde entier. Si tu veux passer des vacances agréables, si tu veux vivre dans un endroit qui est agréable, tranquille, faut aller au Brésil, faut aller à Rio. Les gens, ils te rendent la vie plus simple, je trouve. Le fait qu'il y ait Copacabana, qu'il y ait Ipanema, le fait qu'il y ait les deux frères, le fait qu'il y ait le Christ rédempteur, le fait qu'il y ait le Maracana, le fait qu'il y ait Flamengo. Cette ville est quand même assez particulière. En fait, c'est très difficilement explicable. Expliquer le Brésil à quelqu'un qui n'est pas allé, expliquer Rio à quelqu'un qui n'est pas allé, c'est difficile parce que avec les étrangers, l'expression qu'on répétait souvent, c'était Rio vibes. On se disait, ouais, ça c'est Rio vibes. En fait, on ne trouve pas vraiment les mots pour expliquer pourquoi on se sent bien, mais on se sent bien là-bas. Voilà.
conscience, discutons de nuit et jour. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est tous les jours que je travaille ma cervelle et que mon âme est partie dans un bruissement d'ailes. Alors, mon